Après avoir passé des heures très difficiles dans la noche triste, au moment de cette nuit triste en plein Mexico, Tenochtitlan, entouré de milliers d'Aztèques, aujourd'hui, après s'être enfui de cette capitale, après l'avoir observée de l'extérieur, on va tenter de la reprendre. On va gentiment s'avancer vers le mois d'août 1521. C'est la fin d'une conquête terrifiante, celle de Mexico. On avait remarqué la dernière fois que pour prendre cette Venise posée sur ses eaux, sur cette lagune entourée de volcans, le soleil est à l'horizon, vous êtes Cortés, vous venez de subir l'échec le plus cuisant de votre carrière militaire et vous observez cette ville blanche comme de l'argent posée sur cette eau jaune, boueuse, avec à l'horizon quelques sommets, les grands volcans blanchis qui monte à plus de 5000 mètres et vous réfléchissez. Vous comprenez effectivement que la seule maîtrise qu'il vous faudrait maintenant, c'est celle de ces eaux. C'est-à-dire qu'il faut s'emparer d'abord de la lagune, de cette immense lagune. Vous êtes dans une cuvette qui fait pratiquement 80 km de côté et vous voyez ces toits, ces temples, ces pyramides en plein centre. Alors là, vous vous dites que avoir vécu à l'intérieur était une folie. Il faut la prendre et il faut surtout la cerner, l'isoler. Et pour réaliser un dessin pareil, quand vous êtes à 2000 et quelques mètres d'altitude, ben vous comprenez qu'il ne vous faut pas seulement une armée, que vous n'avez pas d'ailleurs, mais il faudra inventer une flotte bien particulière, puisqu'il faudra raser en fait ces eaux. Je veux dire par là que vous savez peut-être que ces vieilles lagunes n'étaient en fait que des marais où on avait entre 1 mètre et 1 mètre 50 de tirant d'eau au maximum. Alors pour le moment, ben on n'a ni armée, ni flotte. La seule chose qui reste à faire, c'est de se retirer. Et ça va durer longtemps, puisqu'on va vivre à l'extérieur de Mexico, là je parle des Espagnols, pendant pratiquement 6 mois, afin de construire cette flotte et de reformer cette armée. Alors, si je parle de la flotte, c'est parce que on sait que Cortés avait abandonné, ou plus exactement sabordé, ses navires sur les plages de Veracruz afin d'empêcher, bien sûr, à ses troupes nouvelles, à ses hommes peut-être un peu peureux, de repartir vers Cuba ou même vers l'Espagne, et surtout de le dénoncer, parce que cette conquête était quand même une conquête qui n'était pas autorisée par le gouverneur en question, Velázquez, qui vivait à Cuba, n'était pas véritablement autorisée par la couronne espagnole, et ceci à l'époque était puni de mort, et Cortés le savait très bien. Il voulait d'abord gagner et ensuite faire assumer sa victoire, c'est-à-dire la reprendre, ou plus exactement offrir un cadeau royal, impérial, ce cadeau aztèque à la couronne hispanique, et recevoir en contrepartie un titre. Et c'est déjà ce qu'il avait pratiquement obtenu avec ses hommes. Alors maintenant qu'on est là, on comprend que s'il a sabordé ses bateaux, il aura naturellement moins de matériel et il va devoir reconstruire des brigantins. Quand je dis brigantins, ce sont ces navires qui sont un peu particuliers, qui sont beaucoup plus légers, c'est-à-dire qui permettent de naviguer sur des eaux très basses. Et il va envoyer ses hommes, et surtout des Indiens de Tlaxcala, où maintenant il est réfugié, pour aller chercher tout ce qui est encore utilisable après le sabordage de ces bateaux. Donc il va rester une carcasse de base, bien sûr, de ces bateaux coulés. Et puis il y aura des madriers, des cordages, ça c'est des choses qu'on enlève avant de saborder un navire. Il y aura des ferrures, il n'y a aucun métal possible solide sur les terres américaines. Et puis tout le matériel de pont. Alors à partir de là, on va transporter, vous voyez la scène, hein, on est à Veracruz, ou plus exactement à San Juan de Ulua, sur la plage, et on va faire monter cela sur 400 km en altitude, à quelques 2000 mètres à Tlaxcala, tout cela à dos d'homme, et là, on va demander à des charpentiers, indiens ou espagnols, de se procurer sur place, il y a de grandes forêts aux alentours de Tlaxcala à l'époque, afin de construire ces 13 brigantins, donc des navires légers, je vous l'ai dit, avec deux mâts, simplement un seul pont, et en fait, les ouvriers de Cortés, ils vont pas fabriquer le bateau en entier, ils vont fabriquer des parties de ces navires et ils vont simplement décider de les ajuster au moment où ils seront à pied d'œuvre, c'est-à-dire au moment où ils parviendront vraiment au bord du lac. Parce que n'oublions pas, Tlaxcala est encore à une bonne centaine de kilomètres du lac que maintenant on désire reprendre grâce à ce système qui était totalement nouveau en Amérique. On n'avait jamais vu de navires aussi impressionnants que des brigantins. Dès que le travail est vraiment terminé, on va transporter le tout de Tlaxcala jusque de l'autre côté des volcans et sur les rives de ce lac. Alors, c'est une scène qui a dû être assez époustouflante parce que on peut comprendre que lorsqu'on voit tout à coup des milliers d'indigènes dans cette plaine, parmi les cactus, parmi les agaves, avec ces immenses morceaux de bateaux, ces mâts, ces voiles qui marchent en portant tout cela ou en roulant ces pièces principales sur des rondins, ben, c'est vrai que ça a dû être un spectacle aussi impressionnant que celui que je vous racontais lorsqu'on était avec Fitzgeraldo en Amazonie et qu'on passait d'un fleuve à l'autre. Alors, tout cela attelé, sans animaux de trait, ne l'oublions pas, il y a eu quelques chevaux simplement pour donner un coup de main, va maintenant être petit à petit monté avant d'être mis à flot. Et le lancement, ça n'a pas été quelque chose de facile parce qu'il a fallu creuser au bord de ce marais, dans cette boue, une sorte de canal qui pouvait faire, je ne sais pas, 1,5 km, 2 km de longueur, mais en tout cas 3 ou 4 mètres de large. Ça, c'est encore une fois de plus les Indiens tlaxcaltèques qui vont donner le coup de main. Et puis ensuite, il faudra tirer ces brigantins jusqu'à ce qu'ils soient vraiment à flot. Alors, c'est à peu près, bon, on sait qu'il y a eu 30 ou 40 000 indigènes qui ont été sur place simplement pour ce travail. On comprend mieux qu'il ait fallu 6 mois pour obtenir un tel résultat. Et maintenant, vous êtes au printemps 1521, vos 13 brigantins sont là. Ils sont armés chacun d'ailleurs d'un canon qui a été posé juste à la proue. Et ils vont être ancrés dans ce lac de Texcoco. Et aux alentours, on va préparer 15 ou 16 000 ou peut-être 20 000 canoës indigènes qui ont été prévus uniquement pour l'attaque de Mexico-Tenochtitlan. Alors, le miracle suivant, je vous ai parlé de la flotte, c'était l'armée. Il manquait du monde, bien sûr. Et il manquait surtout quelques bons Espagnols, bien frais, bien neufs. Et ils vont arriver tout à fait par hasard à Veracruz, une fois de plus. Chaque fois que Cortés manque d'hommes, involontairement, l'Espagne ou Cuba lui envoie ce qu'il faut, en pensant que tout a été redressé et que Cortés a été complètement soumis. Bien sûr, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télégramme à l'époque. Alors on se dit, bon, ben, le premier a réussi, on renvoie du renfort. Or, chaque fois que le renfort arrive, ayant déjà réussi à attraper le premier par la main et le faire venir jusqu'à Mexico, Cortés va reproduire la chose et il se retrouve une fois de plus, avec 500 hommes devant lui. C'est extraordinaire parce qu'il va retrouver des mousquets, des arbalètes, de la poudre, une quarantaine de chevaux. Donc tous ces effectifs ont été refaits et la seule chose que maintenant il voudrait encore obtenir, c'est une sorte d'accord avec les Indiens. C'est-à-dire qu'il va utiliser toute sa diplomatie et petit à petit, il va se refaire une autre armée indienne. J'ai parlé des travailleurs tout à l'heure. Maintenant, il lui faut encore de vrais guerriers avec des lames d'obsidienne, avec des lances et des javelines. Il va se retrouver avec 25 000 soldats qui ont été contraints ou qui ont été volontaires. Ça n'a pas tellement d'importance parce que les affaires n'étaient pas si simples à ce moment-là. Mais enfin, ils vont véritablement s'enrôler sous la bannière espagnole. Cortés, en quelques mois, on peut dire qu'il a redressé totalement la situation. C'est quelque chose qui paraît incroyable quand on voit à quel point il était tombé à zéro. Ce vaincu de Tacuba, ben maintenant il a une base navale, il a une armée toute fraîche et il s'attend pour le moment, ben il attend simplement l'instant favorable pour se lancer véritablement dans sa contre-attaque, pour reprendre ce fruit dont je vous ai parlé, ce fruit mûr de Mexico. Intéresserait aussi, c'est de savoir ce qui se passe ou ce qui s'est passé depuis 6 mois à Mexico, c'est-à-dire sur cette île qu'on continue à observer de l'extérieur, qu'on aimerait bien reprendre. Ben, c'est sûr que la première réaction des Aztèques, après cette nuit triste où on a tué tant d'Espagnols, c'est quelque chose qui correspond à une libération. On se sent à nouveau libéré, on se sent à nouveau fort, et pendant les quelques jours qui vont suivre la nuit triste, le moment où Cortés devra partir, il y a un vent de folie sur cette lagune. On l'imagine bien, parce que les Indiens ont l'habitude de voir des sacrifices humains. Il y a une sorte d'insulte qui leur a été faite à cause des Espagnols. Et ils vont même utiliser les cadavres, on le sait. Ils sont là, on va garder les survivants, on va les étendre sur la pierre des sacrifices. C'est la vengeance aussi, dans l'autre sens. Et les prêtres, ils vont se donner un cœur joie à chaque fois qu'ils peuvent ouvrir une poitrine ainsi d'un coup sec. Vous savez, avec leur couteau de silex planté juste sous les côtes, ils arrachent le cœur, ils l'offrent enfin à cette divinité, à Huitzilopochtli. C'est un peu comme une hostie, un peu barbare. C'est vrai que cette offre faite au dieu, ce dieu qui en fait a été le vainqueur du jour, Huitzilopochtli, qu'on venait de profaner, qu'on avait remplacé par une vierge, on avait nettoyé et peint le temple, ben non, il était de nouveau en place, il avait retrouvé ses bijoux, et il était de nouveau dans ce sanctuaire qui avait été profané. Alors, ce qu'on voit de nouveau, ce sont non seulement ces autels et ces idoles un peu grimaçantes, mais c'est tout le culte qui d'un seul coup est revenu. Alors, bien sûr, la joie de retrouver les plumes de Quetzal, de se retrouver avec tous ces masques de turquoise. Une ambiance qui vous paraît un peu barbare comme ça à l'écoute, mais c'est simplement la preuve que l'Aztèque, de manière cosmique, avait réussi son tour de force et son tour de régénération, si vous voulez. On venait de relancer la boule, on venait de relancer le temps. L'Aztèque était sûr que sa victoire était totale. C'est-à-dire comme le temps, en fait, par ce système cyclique ne fonctionne que par 52 années, qui est la longueur d'un siècle, ben on était sûr maintenant d'être pratiquement tranquille. Et ça, c'est assez grave, parce que sur ces entrefaites, il va se passer quelque chose d'encore plus important sur l'île de Mexico. C'est la mort du successeur de Montezuma. Vous vous rappelez Montezuma? C'est le grand empereur, celui que Cortés a rencontré sur la digue. Son successeur, c'est Cuitlahuac. Ben, il est mort, vous le savez, de la petite vérole. Ben oui, c'est une maladie qui est arrivée justement à cause de ces troupes que Cortés a réussi à récupérer sur la plage de Veracruz. C'est un noir, on prétend que c'est un noir de l'équipe de Narvaez qui serait arrivé de Cuba. Donc un noir qui lui-même avait été importé d'Afrique, ça naturellement, qui aurait importé également cette maladie. Et c'est ainsi qu'est mort le deuxième empereur important de la conquête. Et finalement, maintenant, on recherche quelqu'un qui va le remplacer. Et c'est quelqu'un qui touche tout Mexicain, y compris aujourd'hui, parce qu'on l'a beaucoup mis en avant, c'est Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, si vous le traduisez, ça veut dire l'aigle qui tombe. C'est assez curieux de penser que même aujourd'hui, il y a encore des gens qui se font appeler Cuauhtémoc au Mexique. Et peut-être un futur président du Mexique risque bien de s'appeler Cuauhtémoc. Cuauhtémoc Cárdenas, qui est lui-même le fils d'un des plus grands présidents actuels, du XXe siècle du Mexique. Alors, si je parle de cela, si je parle de Cuauhtémoc, c'est parce que c'est un homme qui est jeune et qui est vraiment quelqu'un qui va pouvoir faire face à Cortés avec la même fougue et qui a déjà compris le jeu espagnol. Il l'a analysé. C'est le fils d'Ahuitzotl. Ahuitzotl a été le plus grand des empereurs avant Montezuma. Donc il fait partie de la famille, mais il a surtout une éducation extraordinaire, parce que Montezuma nous paraissait faible. Lui, il avait déjà dirigé toute la résistance contre les Espagnols et c'est lui qui avait fomenter la Noche Triste et qui avait réussi à chasser l'Espagnol des îles. Même s'il n'était pas encore empereur, c'est lui qui avait déjà tous les pouvoirs. Et ce héros un peu secret, ben maintenant il allait pouvoir retrouver Cortés à visage découvert. Donc ça change complètement la situation. La chance de départ de Cortés, elle est maintenant perdue, parce qu'en face, il a quelqu'un qui est non seulement vient d'accéder au trône et qui avait fait ses études dans le Calmecac depuis tout gosse, était habitué à ce côté à la fois religieux, il avait appris, il a issu le séminaire des rois ou des fils de rois, comme on appelle. Et il avait réussi à apprendre non seulement les sciences religieuses, mais surtout cet art de la guerre. Donc il avait participé lui-même à de grandes campagnes. Il avait fait des prisonniers en leur tenant simplement une mèche de cheveux, en les soumettant, et ensuite en leur tenant la main au pied de la pyramide pour les laisser monter vers le sacrifice et ensuite recevoir en cadeau cette même main coupée qu'il pouvait ensuite partager avec toute sa famille. C'est simplement pour vous donner le ton, l'ambiance. Je parle de cruauté, mais en même temps, vous sentez cette communion infinie avec la guerre, avec la dureté d'un régime comme celui des Aztèques. Alors, s'il avait été couvert de gloire lors des grands combats, et surtout, attention, c'est très important, des combats qui avaient eu lieu contre la ville de Tlaxcala, vous me suivez, puisque ce sont maintenant les amis de Cortés, effectivement, aujourd'hui, c'était le chef incontesté, et je vois aussi la scène, au moment où il va se rendre depuis son palais à pied, de manière humble, hein. On ne monte pas sur une chaise à porteur pour être couronné, il va à pied depuis son temple jusqu'à la pyramide de Huitzilopochtli, il refait ses 140 marches, et il est revendu, enfin, je le vois porter simplement le manteau royal, qui était ce manteau blanc, et dans sa main droite, il a un encensoir avec le copal, cet encens d'Amérique, il se prosterne devant le sanctuaire, il va prier son dieu, ce Huitzilopochtli, il est maintenant. Et ça aussi, c'est important. Il est sur Terre, l'image de cette énergie solaire, de cette énergie qui, après tout, est cruelle. Le soleil lui-même est cruel dans un monde comme le monde et dans un climat comme le climat mexicain. Il est en fait le responsable de la nature aztèque, de cette grandeur aztèque, et je pense que il est surtout très conscient du danger qui le menace. Il est peut-être même conscient qu'il sera le dernier souverain de la dynastie d'Aztlan. Cuauhtémoc, je vous le rappelle, c'est l'aigle qui descend, l'aigle qui tombe. Porter un nom pareil, être, sans le savoir, le dernier empereur de la plus grande civilisation du Nouveau Monde. Chacun s'est maintenant préparé. Vous avez des espions, des gouttes. Enfin, on est renseigné. Cuauhtémoc sait que l'offensive sera vraiment de grand style. Cortés l'a déjà habitué à des coups de force incroyables. Il a déjà vu comment fonctionnait l'Espagnol. Mais on ne connaît pas ses intentions. Elles restent impénétrables. Elles sont très secrètes. Ça, c'est la force de Cortés. Bah, on se prépare quand même au choc du côté de Cuauhtémoc. On va éliminer les femmes, les enfants, les vieillards, les faire sortir de la lagune, les faire vivre dans la montagne, à l'extérieur, sur les hauts plateaux. Et on va, au contraire, retravailler la ville, c'est-à-dire creuser des fossés qui vont être élargis, on va mettre des pièges, des ouvrages d'art qui vont être édifiés très rapidement. Il y a des armes, des munitions, ces coiffes de plumes, enfin, les arsenaux sont maintenant pleins. On se prépare à l'attaque. Et c'est le 28 décembre. Là, je donne une date précise, parce que en 1520, le 28 décembre, et je vous ai déjà donné la date du 13 août 1521. Voilà la dernière fourchette, ces 7 derniers mois. L'armée espagnole est maintenant devant Texcoco, juste après Noël. Vous êtes rangés en ordre de bataille. Vous regardez le lac. Vous voyez maintenant par ce spot solaire, cette ville qui paraît être portée par cette lagune. La guerre est maintenant commencée. Cortés va simplement diviser son armée en 3 corps. Chacun de ses corps va se mettre exactement à la tête ou au début, si vous préférez, d'une des 3 chaussées qui courent sur ce lac et qui rejoignent le centre. Et on va lancer des colonnes, on va les protéger sur le côté par nos brigantins qui fonctionnent fantastiquement bien. Et en même temps, naturellement, il y aura ces centaines, ces milliers de canoës. Donc, c'est quelque chose d'assez classique. Je parle de la façon de concevoir la jonction au centre de la ville. C'est une méthode, en Europe, tout le monde aurait fait ça. C'était assez particulier dans l'entendement d'un Aztèque. Jamais un Aztèque aurait pris une ville en tenaille, par exemple. Non, on se lançait carrément des cartes d'invitation. On se retrouvait sur un terrain bien plat et on essayait de faire le plus possible de prisonniers et de ne tuer personne sur place. C'est seulement sur l'autel des sacrifices que ça se produisait. Donc, c'est quelque chose qui était totalement nouveau, techniquement, pour le Nouveau Monde. Alors maintenant, ces manœuvres, elles vont réussir plus ou moins bien, mais c'est pas si simple, parce que on se fatigue, il y a une défense de l'autre côté, et au mois de mai 1521, ça je me rappelle, parce que c'est une date très précise, c'était le lundi de Pentecôte, Cortés donne l'ordre d'attaquer véritablement. Et là, on voit les 3 colonnes, hein. Vous les voyez s'ébranler sur ces immenses chaussées, et elles avancent très lentement parce que la flotte a appareillé en parallèle, et on nettoie. Bah oui, les brigantins sont là pour créer une sorte de nettoyage méthodique. À coups de canon, il y a les fantassins espagnols qui dégagent ces chaussées. Alors ça débute très très bien, mais les canots aztèques, ils ont de la peine à s'approcher des chaussées, donc elles sont libres. Mais malheureusement, les soldats espagnols ont bien gagné du terrain, mais ils ont été peut-être un peu trop prudents. Parce que Cortés, la seule chose qu'il évite maintenant, c'est l'encerclement. Il fait très attention à ses arrières, et quand il fait un pas en avant, on peut dire qu'en même temps, à ce moment-là, il fait un pas en arrière. Si je vous parle de cette lenteur, c'est parce que ça va durer des mois, justement. C'est-à-dire que chaque fois qu'on avance, on se rend compte qu'on n'est pas allé assez loin, qu'on a à peine effleuré les faubourgs de Mexico. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que les Indiens qui aident Cortés veulent rentrer tous les soirs. Et tous les soirs, il faut se retirer jusqu'à Texcoco. Et toutes les nuits, eh ben, obligatoirement, on recoupe les ponts, on ouvre des nouvelles brèches dans les chaussées. Et puis, il faut recommencer à reboucher tout cela le lendemain. Donc, vous imaginez ce travail de terrassier constant qui va être fait entre Aztèques de la ville et Cortés venu de Texcoco. Alors, c'est un système nouveau qu'il faut trouver. Et Cortés, là, il a du génie, c'est vrai. Pour un Européen, ça paraît relativement naturel. Mais l'idée de Cortés, ce sera simplement, comment est-ce qu'il faut vous dire cela? C'est d'arriver à utiliser les décombres et en même temps d'arriver à faire avancer les Indiens. Alors, il y a à nouveau des allers-retours qui vont être extrêmement longs et on aura des attaques et des contre-attaques. Mais il faut une autre idée, il faut quelque chose de beaucoup plus fort que ce système où les Indiens sont mis en avant pour le nettoyage et puis les Espagnols arrivent seulement derrière. Donc la technique assez connue en Europe de balayer devant et puis ensuite d'enfoncer. Ça, c'était une bonne idée, mais qui n'a pas fonctionné comme Cortés l'espérait. Parce que au moment où vous arrivez à l'autre bout, il y a toujours le fait que les arsenaux sont pleins et vous recevez des volées de flèches et finalement la journée se termine et à l'heure du soleil couchant, il n'y a plus un Indien pour vous aider. Alors même si vous êtes 500, ce qui est bien peu contre ces 200 ou 300 000 habitants de la lagune, vous devez revenir à Texcoco et vous voyez chaque soir tous ces canots, ces 10, 15, 20 000 canoës indigènes qui vous lâchent en fait, qui vous laissent tomber. Il faut trouver autre chose, il faut chercher autre chose. Cortés réfléchit déjà depuis des mois. Croyez-vous qu'il va trouver ce qu'il faut faire pour que ce fruit tombe véritablement? Qu'on cherche la solution, il y a eu un drame terrifiant qui a marqué incontestablement Cortés. Parce qu'un jour, emportés par leur élan, les Espagnols ont réussi à pénétrer véritablement dans Mexico. C'est-à-dire que les premiers faubourgs ont été pris, et puis là, on a tenté le véritable assaut. Il a été repoussé. Et là, malheureusement, 62 Espagnols, et c'est beaucoup quand on est si peu, vont être fait prisonnier. Et l'armée se retire précipitamment. Mais elle reste un peu en arrière pour voir ce qui se passe par rapport à ces 60 hommes. Et elle a le temps de voir, effectivement, dévaler sur les degrés du grand Teocalli ces cadavres de leurs compagnons, la poitrine béante. C'est vrai que ça a dû être un moment assez difficile aussi, parce que vous fuyez maintenant sous cette grêle de flèches, vous refluez vers Texcoco, et vous entendez encore à l'horizon, dans cette immense plaine, sur ce lac qui est maintenant rouge du soleil couchant, vous entendez ce grondement un peu funèbre du Teponatzl, c'est-à-dire ce tambour à languette. Vous entendez aussi ce cri, cette espèce de ululement des conques. Ben oui, la partie n'est pas encore gagnée. Et là, c'est peut-être à ce moment-là que la lumière se fait. Maintenant, les troupes sont plus importantes. Ça paraît étrange. C'est justement le moment où il y a encore une bonne vingtaine de milliers d'alliés de Tlaxcala qui viennent l'aider. Donc, tout à coup, on va se retrouver avec 40, 60, peut-être même 100 000 Indiens pour l'aider. Et par miracle encore, on lui renvoie involontairement des Espagnols sur la côte. Donc, il a aussi augmenté au point de vue armé. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Il fait un calcul. Il faut trouver autre chose. Cette armée est trop faible. Numériquement. En face, il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'Indiens. On a l'impression que le réservoir ne se videra pas. Il y a toujours un endroit par rapport aux chaussées où Mexico est alimenté, peut recevoir des troupes fraîches ou sonner l'hallali aux alentours. Vous avez déjà trouvé la solution? Vous êtes Cortés? Qu'est-ce que vous allez faire? Ben oui, un simple blocus. Et ce que l'on veut maintenant, c'est arriver à fermer complètement cette Venise de tous côtés. C'est le siège de Mexico, c'est la dernière page de cette histoire aztèque. Parce que dès qu'on a prononcé le mot blocus, on sait d'avance que tout va s'achever. C'est l'agonie, véritablement, de cette tribu qui est venue d'Aztlan, déjà d'une île, déjà d'un lac, de manière légendaire, beaucoup plus au nord. Et ce blocus, il va durer grosso modo 1 mois et demi. C'est énorme pour le départ, mais si je prends jusqu'à la mort véritable de la ville, on arrive presque à 80 jours. C'est vraiment très long et c'est vraiment très dur parce que la première chose qu'on va faire, c'est couper l'aqueduc qui fonctionnait encore. Ça paraît aberrant, mais Cortés n'y avait pas pensé avant. Couper l'aqueduc qui amenait de l'eau potable en plein cœur de la ville. Et puis ensuite, on va naturellement fermer toutes les issues de la ville et chaque tentative, pour vous mettez à la place de l'Aztèque pris dans sa souricière, chaque tentative de sortie, ben, on va la briser avec les canons qu'on a maintenant bien placés autour et on pourra ralentir pratiquement toutes les attaques venues de l'intérieur. Alors, la seule chose qu'on fait maintenant, c'est qu'on progresse petit à petit, on reste au long des chaussées, on ne s'approche pas trop. Mais ce qu'il y a de sûr aussi, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a bientôt plus rien à boire et surtout plus rien à manger. Alors de quoi est-ce qu'on se nourrit? Bon, on a des descriptions, il y a des poèmes aztèques absolument fous où les gens vous disent qu'ils étaient obligés de ronger, c'est-à-dire qu'ils allaient à la chasse aux lézards, ils mangeaient toutes les petites bêtes du lac et des marais, ils rongeaient le cuir de leurs propres boucliers. Et ça, c'est quelque chose qui a dû être terrifiant, parce que vous imaginez aussi le fait de mourir comme cela. Des milliers et des milliers de personnes vont mourir dans cette ville assiégée. On mâchonne tout ce qu'on trouve, de l'herbe salée, de la lagune. Les soldats sont encore là, ils veulent se battre. Les prêtres sont encore là, ils continuent à prier. C'est vrai que ça a dû être un instinct absolument fou. On a pourtant essayé de faire la paix. Chaque fois, Cortés a envoyé une ambassade. Eh bien, chaque fois, Cuauhtémoc, l'aigle qui tombe, l'a refusé. Ambassade. Et il s'obstine véritablement. Et là, on est conscient que l'Aztèque a décidé de lutter jusqu'au dernier. L'armée espagnole entoure la ville, elle a franchi toutes les chaussées, elle occupe petit à petit chaque quartier, l'un après l'autre. 50 000 Aztèques ont déjà péri. Et ceux qui vivent encore, ben, à ce moment-là, quand ils ont compris, ils s'enfuient, ils se jettent à l'eau. Et là, il y a quelque chose d'encore plus fou, parce que ça n'est plus un problème espagnol. C'est un problème aztèque et tlaxcaltèque. C'est-à-dire que les Indiens qui ont été soumis un jour aux Aztèques se vengent maintenant. Et on poursuit de l'Indien partout où l'on peut. C'est un véritable carnage. On détruit tout, on brûle tout. En quelques jours, en quelques heures, la plus grande capitale du monde disparaît. Le 13 août 1521, la ville a capitulé. La seule chose qui soit vraie, c'est que réfugié avec une dernière poignée de fidèles sur un îlot, Cuauhtémoc va livrer son dernier combat.
Thank you.
Soyez Cuauhtémoc pour quelques instants. Voyez-vous sur cette lagune, votre ville est presque déjà incendiée derrière vous. Vous êtes réfugié, vous imaginez que vous pouvez aller vers cet îlot, vous êtes cerné malgré tout de toutes parts, vous sautez dans un canot, vous cherchez à atteindre finalement la terre ferme. La nuit commence à tomber, vous êtes toujours en cette journée du 13 août 1521 et votre pirogue, elle glisse simplement à l'ombre des joncs, elle commence à se confondre avec ces joncs, mais autour de vous il y a des fusils, il y a des arbalètes et tout cela est pointé sur vous. Ben oui, à ce moment-là, vous avez perdu. Parce que vous comprenez que s'il tire, vous êtes perdu. Alors, vous hurlez, vous criez dans ce début du soir et vous dites simplement « Amenez-moi vers Cortés ». Et là, on se saisit de Cuauhtémoc, on l'entraîne jusqu'au centre de Mexico, sur la terrasse du palais d'Axayacatl, à l'endroit même où Montezuma était mort, à cet endroit qui a été repris par les Espagnols, l'endroit où ils avaient déjà vécu. Et là, le vainqueur et le vaincu vont se dévisager, vont se regarder. Il y a une scène qu'on peut imaginer, pourquoi pas. C'est Cuauhtémoc, fier, presque nu avec son simple pagne, Cortés, avec sa cuirasse, qui est vraiment le vainqueur. Et Cuauhtémoc qui a le courage de lui dire qu'il a gagné, c'est vrai, il réagit en aztèque. Dès qu'on a pris quelqu'un, on sait qu'on est déjà un homme mort consacré aux dieux. Mais lui a le courage de dire qu'on peut faire de lui ce que bon nous semble, mais en même temps, il a envie d'accepter la mort directement de Cortés. Et la légende prétend qu'il aurait tendu le propre poignard de Cortés. C'est-à-dire qu'il l'aurait pris dans sa ceinture et qu'il lui l'aurait donné en lui disant « Écoute, maintenant, donne-moi la mort, tue-moi. » Cortés va bien sûr refuser. Mais ce jour-là, tout a été bouleversé. C'est un tremblement de terre qui a eu lieu à Mexico, dans la mesure où des 300 000 habitants dont je vous parlais tout à l'heure, il n'y a peut-être que quelques milliers qui vont survivre. Et puis surtout dans quel état? Parce qu'il n'y a plus de noblesse aztèque maintenant. Il n'y a même plus de ces fabuleux princes de la guerre, les aigles et les tigres, les chevaliers aigles, les chevaliers tigres avec leurs costumes. Le premier geste de Cortés, ça paraît curieux, mais c'est normal, c'est d'offrir un banquet. Vous imaginez les bacchanales. Vous êtes maintenant dans le quartier de Coyoacán, qui était le plus beau quartier résidentiel aztèque. Et là, vous avez la joie de recevoir de Cuba, tout à fait par hasard, un bateau qui était chargé de barriques de vin. Il y avait même du porc, enfin des jambons séchés, un bon jambon d'Espagne, des choses qui n'existaient pas en Amérique. Et on va pouvoir s'offrir cela. C'est une nuit un peu folle qui va suivre celle du 13 août 1521. On a mangé, on a bien bu, on n'en reste pas moins espagnol. Et que se passe maintenant, enfin que se passe-t-il dans la tête de tous ces soldats, de ces quelques centaines qui ont accepté de jouer le vatu aztèque? Ils pensent une fois de plus à l'or, parce que c'est bien notre sujet. On est parti vraiment dans cette course à la recherche de l'Eldorado. Et même si on a déjà fouillé les décombres de la ville, on se rend compte que le premier trésor n'est plus là. Tout a été caché. Et on se rend compte aussi que la récolte est très maigre, parce que la seule chose qu'on est d'accord de vous donner, ce sont des éventails de plumes, ce sont des boucliers avec un peu d'osier, beaucoup de décors, des céramiques, des choses qui pour l'Europe n'ont aucune espèce de valeur, des tissus extraordinaires, mais rien. Pas d'or, pas vraiment de pierres précieuses, parce que on n'a pas trouvé vraiment ce qu'on cherchait. C'est vrai qu'on a offert beaucoup de choses de peu de valeur que pour les Européens, à tous ces Indiens, ceux de Tlaxcala, mais les Espagnols, les soldats, attendent autre chose. Et la seule personne à qui ils peuvent poser la question, c'est Cortés. Comment retrouver les valeurs et les richesses qu'on avait eues la première fois, avant de quitter cette capitale, avant la nuit triste, lorsqu'on avait en main le trésor d'Axayacatl? Après tout, c'était l'ancêtre de Cuauhtémoc. Et oui, c'est vers Cuauhtémoc qu'on va maintenant se tourner. C'est à lui qu'on va demander de retrouver de l'argent, de l'or. Il a eu la vie sauve, on l'a pris sous notre protection, mais ça c'était qu'une apparence. On l'a traité avec les honneurs qui étaient dus à son rang. On lui demande « Où est la cachette? Où est l'or? Où est le trésor de Montezuma, de Cuitlahuac? Le tien peut-être ?» Et naturellement, on va l'attacher. Et on va le torturer sur un chevalet de bois. Vous voyez maintenant les tisons, vous voyez cette chair qui crépite, ses pieds qui souffrent, et il ne se lamente absolument pas. Et oui, il sait bien qu'il n'est pas sur un lit de rose, Cuauhtémoc. Et même si ses capitaines meurent dans des conditions terribles, lui ne lâche pas un mot. On doit même suspendre le supplice, et on n'aura jamais rien de Cuauhtémoc. Il n'y a peut-être plus de trésor aztèque, mais lui l'aura bien caché s'il y en avait un. Thank you. chercher de l'or. Bon, si ça n'est pas Cuauhtémoc, il y en a peut-être encore dans cette ville de Mexico. On va sonder toutes les eaux du lac. On va passer d'une maison à l'autre. On va perquisitionner chaque indien et minutieusement fouiller. Si par hasard, il porte encore quoi que ce soit en métal précieux, on lui l'arrache. Il n'y a pas une pierre qui ne va être raclée, ni un corps de Mexicain qui ne va être ainsi mis à nu. Et grain par grain, bah, finalement, on va récupérer pas mal de métal. Oui, ça finit par constituer beaucoup, beaucoup d'or. Notre guerre est maintenant finie, on a distribué tout cela aux soldats, et on a massacré beaucoup de monde. Bah, on sent qu'on arrive maintenant vers un âge nouveau, quelque chose de terrifiant, et derrière nous, c'est l'heure de l'Espagne qui va maintenant sonner pour le Mexique. Car pour Cortés, il faut maintenant obtenir des droits. C'est-à-dire qu'il faut simplement que Charles Quint reconnaisse sa conquête. Et ça, ce n'est pas facile parce que son triomphe a été total. Ce sera plus facile quand on a obtenu le résultat qu'il a obtenu, c'est vrai. Mais il va d'abord oser travailler carrément à la manière d'un grand prince au Mexique. Il va faire raser les décombres de Mexico. Il va faire construire au milieu de la lagune une ville nouvelle, celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire tout souvenir de cette présence aztèque va être complètement effacé, ça je crois que c'est important, en lieu et place de notre Teocalli où nous avons gravi ces marches plusieurs fois. Eh bien là, on va commencer à construire tout près la cathédrale de Saint-François. Et on va y placer un couvent franciscain, juste à côté de l'endroit où se trouvait le jardin zoologique de Montezuma, tout près du palais d'Axayacatl, au centre de la ville. On va édifier ce qu'on connaît encore comme la Plaza Mayor, le Zocalo, une place, une des plus grandes du monde. Cortés a simplement pris une ficelle, je joue à peine sur les mots, c'est-à-dire qu'il a tendu au cordeau, donné lui-même les plans, c'était très propre à tous les conquistadors, afin de donner une dimension à l'espace vide qui était occupé par le centre. Le côté public des Aztèques était maintenant remplacé par cette grande place qui était beaucoup plus vaste que n'importe quelle place d'Espagne. Et autour de tout cela, il va faire construire une bonne douzaine d'églises. Il y a maintenant un autre dieu. Pendant 4 ans, les Indiens sont des esclaves, en fait, maintenant, ça on le comprend. Eh bien, ils vont briser tout ce qui pouvait exister à Tenochtitlan. Donc, ce sont des mains aztèques elles-mêmes qui vont transformer les anciennes pierres pour en faire des gravures à l'espagnol, des motifs à l'espagnol. Et on retrouve encore aujourd'hui, dans les constructions coloniales du XVIe siècle, les témoignages aztèques. Les Aztèques ont souvent même caché l'image de leur dieu entre deux pierres colonial. On le retrouve un peu partout. Et il y aura ensuite, c'est assez étrange d'imaginer cette ville transformée, parce que maintenant vous avez cette grande place au centre et vous n'aurez qu'une seule rue qui va partir, une de ces anciennes chaussées, celle de Tacuba, celle des Espagnols perdants dans la nuit triste. C'est là qu'on va faire construire les premières grandes demeures, les premiers palais espagnols, comme si on n'avait qu'une seule rue qui était posée sur l'eau, comme si on n'avait qu'une seule rue, ou plutôt un seul canal et rue à Venise. Et là, on va faire venir d'Espagne 2000 familles qui vont s'installer, qui espèrent faire fortune. Et on va fonctionner un peu comme dans les colonies précédentes. Là, je parle des îles, bien sûr, de toutes ces Antilles qui sont déjà prises. C'est-à-dire qu'on va répartir les terrains et la main-d'œuvre indigène. Ça s'appelle le repartimiento. Dès qu'on va offrir, enfin, on va offrir tout cela à chacune des familles. Et on devra avoir un rendement maximum. Et pour cela, bon, on va importer d'Europe des choses totalement nouvelles, c'est-à-dire des plantes, bien sûr, et grâce aux eaux de l'aqueduc, là, vous le voyez, on l'a réparé, celui qu'on a coupé tout à l'heure, les jardins vont renaître, les premiers essais de culture, ben, ça a donné des résultats tout à fait fantastiques, l'oranger pousse très bien, les pêchers, les pommiers, enfin, tous ces fruits, ces légumes que l'Amérique ne connaissait pas, on va planter de la canne à sucre, c'est totalement nouveau. Aujourd'hui, vous pouvez même dormir dans l'ancienne hacienda sucrière de Madame Cortés. On va continuer à cultiver le coton. Enfin, on trouve que Mexico, c'est pas si mal que ça. Ça devient un peu... C'est déjà la Nouvelle-Espagne. C'est le titre et le nom que Cortés va donner au Mexique. On se sent un peu comme en Andalousie. Et on va réaménager un quartier entier de Mexico avec la plus belle résidence qui sera celle de Cortés, naturellement. C'est à Coyoacán. Et là, ben, il va vivre véritablement comme un roi, comme une cour royale qui va se créer tout à coup. Une cour de souverain, il y a des conseillers, il y a des gentilshommes, enfin bon. Il a toute une ville, tout un côté civil et militaire qui va s'installer autour de lui. Il mange dans de la vaisselle d'or. Là, je crois que c'est important de voir le contraste, le côté terriblement rapide de ce changement. En quelques mois, on va déplacer des valets, des pages. On va recréer vraiment quelque chose qui n'existait qu'en Europe. Il y aura des femmes, bien sûr, qu'elles soient colorées ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc Cortés a oublié, je dirais, ses origines. Il s'est créé une sorte de petit empire hispanique de l'autre côté du monde. Il y a juste une ombre au tableau. C'est l'arrivée soudaine à Mexico de Catalina Juárez. C'est la femme légitime de Cortés. Difficile de s'imaginer Cortés. Hein? Pas très content. Ben, il va accueillir sa femme un peu fraîchement. Et pourtant, la Grenadine, attention, elle va essayer pendant quelques temps, 3 mois, c'est vrai, c'est pas beaucoup, à tenir son rôle de général, parce qu'il est capitaine général. Enfin, il est vraiment le prince sur ces terres d'Amérique. Donc, vous voyez que le tam-tam est arrivé jusqu'en Espagne. Et là, elle va essayer de s'installer dans ce monde un peu composite, cosmopolite aussi, parce que elle vient pour surveiller les audiences du gouverneur. Il y a l'alcalde, les autres alcaldes qui sont soit des Indiens, soit des Espagnols déjà. Enfin, il y a toutes sortes de missions qui s'installent comme cela. Il y a toutes sortes de conseils. Et une même table, ben, vous pouvez voir des gens de Valladolid, des caciques indigènes qui étaient des princes qui vivaient sur la lagune. Alors, elle essaye, elle, de présider tout cela. Elle reçoit les visites. Alors Cortés, il n'en peut plus. Là. Il supporte très très mal. Et ben, je crois qu'il a dû ressentir quelque chose de cuisant à ce moment-là, parce que c'était un retour un peu cruel dans le passé, parce que c'était un mariage forcé qu'il avait dû contracter avec cette femme. Et au fond, c'est toute sa page espagnole qu'il refuse à ce moment-là. Et un matin, vous l'avez déjà deviné, si ça n'a duré que 3 mois, ben, un matin, on va retrouver Catalina morte, étranglée dans son lit. Ben, on ne saura jamais qui l'a étranglée, même si plus tard on accusera Cortés, que ce sera encore un motif, disons, pour le faire descendre. Vous êtes tout en haut maintenant, mais vous allez perdre tout ce que vous avez gagné si vous êtes Cortés, un peu comme Christophe Colomb. Et bon, ces ennuis conjugaux, ça n'enlève rien en tout cas à son objectif, parce que lui, il veut vraiment achever sa conquête. Et ce qu'il veut, et là vous devez vous mettre quelques secondes dans la peau de Cortés, ce qu'il veut, c'est véritablement confirmer quelque chose qui va le poursuivre jusqu'à l'heure de sa mort, c'est-à-dire confirmer le côté évangélique de sa mission. Alors ça, c'est l'ambiguïté. Quand je vous ai parlé de la conquête, jusqu'à maintenant, vous avez ressenti quelque chose de cruel. Ben non, il a fait tout cela au nom de la croix, au nom de la foi, et il demande qu'on fasse venir d'Europe des missions religieuses. C'est-à-dire qu'il veut d'abord qu'on lutte contre l'idolâtrie. Alors, il y a les premiers 12 franciscains, on a l'impression de se retrouver devant les apôtres. Hein. Vous avez les dominicains qui viendront après, qui sont les pionniers, et qui vont ben, véritablement faire une conquête spirituelle de ces millions d'indigènes. Vous avez tout à coup des centaines de couvents qui vont être spontanément construits grâce à la main-d'œuvre indigène, mais avec 12 franciscains, vous allez couvrir la carte du Mexique, pratiquement, de couvents et d'églises. Ça paraît un peu fou. Et puis, il y a ce dernier geste auquel il tient beaucoup. Il a réussi à ce qu'on baptise Cuauhtémoc. Vous voyez maintenant ces gouttes d'eau, cette eau lustrale qui tombe sur le front d'Ahuitzotl. Il a dû renoncer à ses dieux aztèques, il a déjà renoncé à son pouvoir, ça c'est peut-être que de l'apparence, mais il s'appelle maintenant Fernán de Alvarado Cuauhtémoc. Il a le prénom du conquistador et le nom du conquistador du Guatemala. C'est quand même un peu le comble, avoir des parrains pareils pour être baptisé. Et c'est un triomphe, bien sûr, pour Cortés, il est au sommet de sa gloire. Il y a déjà des signes néfastes, je suis obligé d'en parler, parce que je vous ai fait ignorer tout ce qui se passait en Espagne, mais la seule chose à laquelle on rêve, c'est de lui voler ce qu'il a maintenant pu obtenir. C'est trop gros ce qu'il a gagné, c'est immense, ça n'est plus un cadeau, c'est un contrepoids. Regardez la surface du Mexique, pensez à la richesse du Mexique, vous vous verrez que ça remplit l'Espagne, même à bout de la France. C'est 50 fois la Suisse d'un seul coup qu'il met dans le plateau, plus tous les territoires qui sont autour. C'est énorme. Des millions d'habitants qui n'existent même pas en Europe à l'époque. Donc il y a une jalousie, bien sûr, et Charles Quint, il essaye de limiter les pouvoirs de Cortés. Il l'avait déjà fait par personne interposée, parce que rappelez-vous de l'histoire de Christophe Colomb, les rois catholiques avaient fait la même chose. Christophe Colomb est mort misérable. Cortés aussi, en fait, on va comploter jusque dans les antichambres du palais de Cortés. On envoie des gens au Mexique pour surveiller tout cela. On a envoyé des gens de Cuba. Et je pense à quelqu'un qui est important, qui s'appelle Olide, parce que quelqu'un va pactiser avec son ancien ennemi, Diego Velázquez. Et qu'est-ce qu'on va faire? Le seul moyen pour battre Cortés, c'est d'aller manger le pain pendant qu'il est encore là, c'est-à-dire détourner le Mexique et aller manger les autres territoires. Donc on va attaquer par le sud, on va essayer de prendre par exemple le Honduras. Alors ça, Cortés est fou de rage, parce qu'il se dit, on est en train de prendre la part du gâteau qui m'appartient, parce que pour lui, à ce moment-là, tout le continent américain, sans le connaître, est encore à lui. Vous l'imaginez? On connaissait déjà Panama vaguement, mais enfin, à partir de là, tout était possible encore pour le reste des territoires. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il se fâche et il part à pied. Attention, c'est peut-être la chose la plus folle que Cortés n'ait jamais faite. Il est parti de Mexico et il a été jusqu'au Honduras et il a traversé toutes les jungles mayas à pied avec une armée complète. Et vous savez qui il va emmener avec lui? Bien sûr, Cuauhtémoc. Et ils partent ensemble, il y a des musiciens qui sont devant, vous imaginez la cour, vous êtes suivis par tous les chefs vaincus qu'il faut bien traîner derrière soi, puisqu'ils sont prisonniers quand même à quelque part, et on va se lancer vers l'inconnu. C'est quelque chose de terrible, il y a des forêts, il y a des marécages, il y a des fleuves, il faut travailler à la machette à travers cette jungle complètement impénétrable et abandonnée depuis les Mayas déjà depuis pratiquement un millénaire. On traverse ces rivières et on doit traverser toute la Sierra Madre aussi. Et en fait, quand on relit un peu cette histoire de la traversée du Mexique, du Yucatan, du Guatemala, du Petén, je crois qu'on comprend mieux les craintes de Cortés. Parce qu'en même temps, on lui apprend qu'il est trahi de partout. Et il apprend qu'il est trahi de l'intérieur. Il apprend aussi que les Indiens eux-mêmes sont en train de trahir. Et c'est là qu'il va faire exécuter Cuauhtémoc. On va le mettre à mort. Une exécution qui a certainement lieu dans un petit village maya. On n'en parle pas beaucoup, on ne connaît pas vraiment les détails. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va être pendu aux branches d'une saïba. Je ne sais pas si vous avez vu une fois un arbre comme celui-ci. La saïba, c'est l'arbre sacré des Mayas. Ça ressemble à un énorme fromager géant, un peu comme les baobabs d'Afrique, si vous voulez. C'est un arbre qu'on voit de partout et qui est de l'arbre symbolique qui soutient le cosmos et le monde pour les précolombiens de cette région. Et là, il va prononcer ses derniers mots au moment d'être pendu, parce qu'il savait qu'on lui réservait cette mort. Il connaissait surtout le côté un peu faux de Cortés. C'est vrai que Cortés est une sorte d'homme machiavélique et il est persuadé, il est chrétien, Cuauhtémoc, que Dieu, le nouveau Dieu, va lui en tenir rigueur. Et c'est une sorte de prophétie que Cuauhtémoc lance à l'égard de son ennemi de toujours. L'aigle tombe, la corde s'est tendue, il est foudroyé. Vous êtes en pleine jungle, c'est un peu sinistre comme endroit. C'est vrai que, après qu'on ait dépendu cette dépouille de Cuauhtémoc, on va la brûler, on va disperser ses cendres. Cortés va reprendre sa route, il va redescendre jusqu'au Honduras pour arriver face à un Cristobal de Olid qui a déjà été assassiné par ses compagnons. Enfin, tout est raté. Et là, et pire encore, il tombe sur une expédition qui arrive carrément de Panama, c'est-à-dire du Darién. Et là, il y a un certain Davila, Pedrarias Davila, qui est là. Et il sait qu'il n'est pas le premier. C'est-à-dire qu'on a un contact entre ces deux colonnes qui va être un peu orageux. On en vient en main. Cortés va encore réussir à calmer tout cela. Et finalement, ils fondent une véritable colonie et il revient à Mexico. Donc il a réussi, mais en même temps c'est un échec. Il a surtout perdu, il a tué Cuauhtémoc. Ce sont des légendes qui courent encore au Mexique. On voit toujours cette scène où Cortés brûle les pieds de Cuauhtémoc pour savoir où est le trésor, où est en fait cet Eldorado mythique des Aztèques. Et bon, la vie va continuer, il va devoir retourner en Espagne, on va le faire marquis de la vallée de Oaxaca, on va essayer de le rétrécir comme une baudruche, de lui donner le minimum du Mexique, et finalement, comme Christophe Colomb, lui, il a revendiqué un pouvoir qu'en fait on lui refuse, hein. Comme lui, il va mourir presque pauvre, après avoir été enrichi, parce que pour lui, être en Espagne et devoir courir après un roi, après un empereur pour obtenir des papiers, des droits, ben c'est surtout avoir perdu son Mexique, c'est l'avoir abandonné. Et il va mourir sans avoir obtenu vraiment ce qu'il voulait. Il a été enrichi par Charles Quint, il a eu des titres, mais lui a donné tellement au trésor royal. Il a donné à Charles Quint ben, plus de provinces que ce même Charles, et pourtant, si vous étudiez la vie de Charles Quint et que vous voyez sur la carte de l'Europe ce que ça représente, ben Cortés a pu avoir le culot de lui dire qu'il avait hérité, grâce à lui, de plus de villes que ses parents, ses aïeux, les Habsbourg, lui auraient jamais données. Et comme lui, ben, il va mourir, je parle toujours de Colomb, bien sûr, abandonné de ceux dont il a fait la fortune, en fait. Et je me demande comment Cortés est mort. Est-ce qu'il a songé juste à ce moment-là aux cendres de Cuauhtémoc qui avaient été jetées au vent de la forêt dans cette jungle? C'est vrai que la victoire, ben, elle n'est pas vraiment du côté de celui qu'on croit, parce que celle de Cortés, c'était d'avoir planté la croix chrétienne au sommet des Teocalli, c'était son principal ennemi, Huitzilopochtli, mais en même temps, il avait réussi à vaincre ce diable. Il avait réussi en fait à n'avoir qu'un maître. C'était pas Charles Quint, c'était Jésus-Christ, bien sûr, parce que ça c'est très Cortés. Il a toujours affirmé qu'il avait été l'instrument de Dieu et que sa cause était une cause tout à fait justifiée, justifiable. Ça fait mieux comprendre la conquête du Mexique. Ça fait mieux comprendre l'âme espagnole. Mais à Mexico, aujourd'hui, si vous allez dans cette capitale qui a été détruite, ben vous verrez, effectivement, en vous promenant dans ces immenses avenues de cette ville qui est devenue une fois de plus la plus grande capitale du monde, avec ses 18 millions d'habitants, ben vous verrez aujourd'hui qu'il n'y a aucun monument qui commémore cette prodigieuse aventure de Cortés. C'est quand même assez fou de penser que après 500 ans de découverte de ce continent, bah, il n'y a plus rien de lui. Ses cendres, bah, elles avaient été conservées pendant près de 3 siècles. Comment s'appelait cet hôpital? L'hôpital Jésus de Nazareth en Espagne. Bah, un jour, il y a eu des révolutionnaires en Espagne, et comme celle du dernier roi aztèque, et elles ont été dispersées. Il n'y a même pas une pierre qui rappelle aujourd'hui le geste du conquistador sur le continent qu'il a réussi à prendre. Si, si, pourtant, il y a quelque chose en plein cœur de Mexico, une statue du fameux Cuauhtémoc. Si je vous disais que la prochaine fois, je ne savais même pas où nous allions partir. Si je vous disais que la prochaine fois, eh bien, nous allons peut-être retrouver une autre voie vers l'Eldorado. Si je vous disais que la prochaine fois, on allait peut-être vivre avec Pedro de Alvarado, vous vous rappelez? Celui de la nuit triste. Pourquoi pas partir vers les sept cités de l'or, vers la Californie, vers le Guatemala. L'Eldorado, c'est un peu partout en Amérique.
Thank you.